vous suit.
Voici les titres du journal.
L'édition 2025 du rallye du Chablais est en cours depuis ce matin. Nous rejoindrons Thierry Nicolet sur place afin d'analyser cette première matinée. Le peloton du Tour de France passera par Aigle en 2026. Après les hommes en 2022, ce sont les femmes qui seront présentes dans le Chablais pour le départ de la deuxième étape de la compétition. Monté a inauguré hier son musée situé au rez-de-chaussée du château. Mené par la commune et le canton, les travaux de modernisation permettront la tenue d'expositions temporaires et permanentes. À Villeneuve, un projet de logement adapté aux seniors se dessine pour répondre au vieillissement de la population. Soutenue par la municipalité, l'initiative a soulevé toutefois des réserves chez les riverains notamment.
Pour la météo, un temps changeant, voire assez ensoleillé pour cet après-midi. Demain, toujours un temps changeant prévu. On fait un point complet sur la météo de ce vendredi de ce week-end à la fin de ce journal. Un journal qui vous est présenté par Guillaume Abbey. Bonjour Guillaume.
Bonjour Mélanie, bonjour Axel, bonjour tout le monde. En démarre, une fois n'est pas coutume, par les sports. Le coup d'envoi de la 21e édition du rallye du Chablais a été donné ce matin. Les pilotes engagés ont déjà parcouru la moitié du programme de la journée. Nous retrouvons au QG d'Aigle du rallye du Chablais à Thierry Nicolet. Thierry Nicolet, que pouvez-vous déjà nous en dire ?
Et c'est le Neuchâtelois Jonathan Hirschi qui mène le bal après 3 spéciales pour le moment. Le vainqueur de l'édition 2024 possède 6 secondes d'avance sur le luxembourgeois Charles Munster. Le Valaisan Thibaut Marais 3e, juste devant la superstar française Sébastien Loeb. Les Chablaisiens Martin Pastor et Joël Rapa sont respectivement 9e et 11e. La catégorie des historiques, on a actuellement terminé avec la 4e spéciale, c'est celle de la Tour d'Aï. C'est la BMW M3 d'Eddy Bérard qui domine cette matinée. Ludovic Turin lui a tendu son micro à l'arrivée de la dernière spéciale de la matinée il y a seulement quelques minutes.
Comment ça va Eddy Bérard sur cette spéciale 4? Déjà vous annoncez que vous êtes en tête pour l'instant de la spéciale avec 4 secondes d'avance sur Clovis Brosy. Comment ça s'est passé? La pluie qui commence à se lever?
C'est clair que la pluie sur la fin, après on a fait le bon choix de pneu en partant ce matin avec des pluies partout. C'était quand même bien humide de ce qu'il a plu cette nuit. Voilà, c'est un bon choix, heureusement, parce que là apparemment ça revient de nouveau un peu de pluie. Ils n'avaient pas annoncé ça, mais on a fait le bon choix.
Et puis en tête du général aussi, après 4 spéciales, comment on appréhende ça? C'était un peu ce qui était prévu ou vous êtes surpris?
Prévu, on peut jamais dire ce qui va se passer. Après, des fois on bénéficie des problèmes des autres. Et puis, pour l'instant on est là, on verra plus tard.
Et plusieurs abandons sont à noter. Tout d'abord chez les modernes, la voiture 12 du pilote valaisan Ismaël Wüstiner a dû abandonner avant même le départ de la première spéciale du jour, celle de Panay. Chez les historiques, 2 chablaisiens sont également hors jeu. Pascal Barman, Descrozet, a connu un ennui mécanique sur la 3e épreuve. Le pilote de l'AV, Julien Tournet, a lui également dû rentrer au garage. On l'écoute tout de suite.
Chance, on peut dire ça comme ça. On a voulu faire la première spéciale et puis en fait on n'avait pas de puissance du tout. La voiture n'avance pas. On a eu de la perte de puissance tout au long. On a juste pu arriver à la fin. On s'est engagé sur le col de la Croix et puis on a fait toute la spéciale avec un régime moteur aux alentours de 3000 tours minute. Et puis on est tombé en panne, on diablerait. Alors on pense que c'est un problème d'alimentation d'essence. On va essayer de réparer ça après-midi puis de repartir demain en super rallye.
La journée s'annonce quand même chargée.
De la mécanique, on commence à avoir l'habitude, on va faire ça cet après-midi et puis c'est peut-être dû juste un petit filtre à essence, c'est peut-être ça qui est bouché puis qui fait que la voiture ne va plus. Donc voilà, on a quasiment jamais fini, c'est un petit peu dommage quand même, c'est comment dire, être mal récompensé de toutes les heures qu'on a passées dessus. C'est le rallye, c'est comme ça. Alors on espère réparer après-midi puis être là demain pour le super rallye, même si on n'est pas classé, c'est pas grave, mais pour s'amuser quoi.
Et on le rappelle, Jonathan Hirschi mène le bal chez les modernes devant Charles Munster. Les modernes sont actuellement sur le parcours de la 4e spéciale du jour, celle de la Tour d'Aï. Et voilà ce qu'on pouvait dire pour le moment.
Merci beaucoup Thierry. Nous vous rappelons que le rallye du Chablais est à suivre en direct sur Radio Chablais aujourd'hui et demain. Prochain pointage dans 25 minutes à 12h30.
Aigle sera ville étape du Tour de France féminin 2026.
Le chef-lieu du Chablais vaudois fera office de départ de la deuxième étape qui se disputera le 2 août et qui rejoindra Genève en passant par Montreux et Vevey. Une belle reconnaissance pour la capitale mondiale du cyclisme qui avait déjà accueilli le Tour de France homme il y a 4 ans à peine. L'arrivée des femmes n'était qu'une suite logique, selon le syndic d'Aigle, Grégory Deveau.
Il y a une volonté aussi d'égalité, alors c'est juste et c'est une nécessité au quotidien pour les responsables politiques de viser à cette égalité. Et on sait aujourd'hui le sport féminin au sens large et le cyclisme en particulier être grandissant en termes de notoriété, mais en termes de qualité aussi. Non pas que c'était de mauvaise qualité il y a quelques années, mais aujourd'hui il y a vraiment eu un effort particulier des constructeurs. Je pense aux habits, je pense au matériel, au vélo, et puis aussi une volonté de pouvoir mettre en avant des jeunes femmes dans tous les sports d'ailleurs, et puis de pouvoir pouvoir intéresser aussi des jeunes femmes. Parce que c'est ça, qu'il y a des grands événements. C'est aussi donner envie aux tout petits qui viennent sur le bord de la route, voir la caravane publicitaire, voir les athlètes, participer à une fête, de se dire, ah ouais, tiens, le vélo, c'est quand même sympa. Parce qu'il y a, oui, il y a l'élite, mais il y a aussi le quotidien. Et puis le quotidien, c'est la mobilité, c'est la mobilité douce. Moi, je dis souvent, quoi de mieux que le vélo pour toucher toutes les politiques publiques? Et c'est ça qu'on essaye de faire, modestement.
Des propos recueillis par Thierry Nicolet. Le coup d'envoi du Tour de France féminin 2026 sera donné à Lausanne le jour de la fête nationale. Marion Rousse, la directrice de l'événement, s'est pour sa part réjouie de fouler le sol helvétique, une terre, je la cite, d'acteurs qui se sont toujours battus pour le développement du cyclisme féminin. Les travaux du rez-de-chaussée du château de Monté sont terminés. Classé monument historique, la bâtisse a accueilli hier l'inauguration de son plein-pied qui sera investi par le musée de Monté. Dès l'automne, des expositions permanentes et temporaires occuperont le lieu géré par l'association Monté Patrimoine, anciennement Vieux Monté. Dès l'automne, le musée proposera une exposition sur l'usine Djeva, fondée en 1914 et célèbre pour ses pierres de synthèse. Le président de Monté Patrimoine, Jérôme Butet.
Une équipe travaille déjà maintenant. On a la chance encore de pouvoir bénéficier de l'apport de témoins importants, de cadres de cette entreprise, principalement M. Bernard Cachat, avec qui nous avons fait plusieurs visites dans les anciens locaux pour récolter ce qui pourrait être quelque chose de démonstratif au niveau d'une exposition tout public. Le fil rouge a déjà été plus ou moins arrêté. Il restera la mise en scène, les supports, etc.
Pour rappel, le chantier a été réalisé par la commune de Monté en collaboration avec le service valaisan de l'immobilier et du patrimoine. Il a permis la modernisation et la mise en conformité de l'édifice tout en ouvrant un accès vers le jardin.
Villeneuve met le cap sur le logement senior avec le projet Le Biron.
Présenté mercredi soir en séance publique, ce plan d'affectation prévoit la construction d'appartements adaptés à proximité de l'actuel EMS qui reste en fonction. Deux parcelles sont concernées et c'est le groupe UBS avec l'exploitant Tertialum qui pilote l'ensemble. La municipalité soutient le projet, saluant une construction à moyenne densité qui s'intègre harmonieusement dans le quartier. Et si ce projet répond à une réelle demande de logement de ce type sur le territoire communal, il a aussi suscité quelques réticences lors de sa présentation. D'abord, la crainte d'une vue partiellement obstruée sur le lac. Ensuite, des interrogations sur l'accessibilité et la mobilité dans le secteur. Les précisions de Léonard Studer, municipal en charge de l'aménagement du territoire.
Ils estiment que la mobilité pour les futurs résidents, qui sont en principe des personnes avec une mobilité un peu réduite, que les conditions de mobilité n'étaient pas très bonnes. Je pense que leur remarque est fondée. Je pense que nous allons demander au maître d'ouvrage d'affiner un petit peu le projet et de prendre en compte ces remarques, en particulier pour les gens qui connaissent la région, en bas de l'avenue Biron, à peu près à hauteur du carrefour du pont sur la Tinière ou de la piscine de Villeneuve, il y a un endroit un peu difficile. On a dû rehausser les murs le long de la Tinière pour protéger les environs des crues, ce qui bouche beaucoup la visibilité. Mais il semblerait qu'il y ait des solutions, donc on va probablement aller vers un aménagement local ponctuel, ça c'est une chose. Deuxième chose, du côté de la route cotonale, donc les résidents de ces appartements adaptés seront certainement des clients pour les transports publics. Il y a deux arrêts de bus à environ 300-350 mètres de ce lieu-là, mais par contre ça nécessite d'emprunter un trottoir le long de la route cotonale, ce qui peut donner une notion d'insécurité. Nous allons aussi voir avec les services cotonaux et avec l'EVMCV s'il est possible d'améliorer la situation.
Et les travaux pourraient débuter en 2027. D'ici là, le dossier sera finalisé, validé par la municipalité, puis transmis au canton pour un premier examen prévu cet automne. La mise en enquête publique interviendra dans environ un an avant un vote du Conseil communal à l'automne 2026. Un sujet signé Julie Gay.
La musique va régner en maître ce week-end dans le Chablais à l'occasion du festival Aiglin Musique.
La manifestation Aiglon se déroulera exceptionnellement sur 3 jours du 6 au 8 juin avec une programmation entièrement gratuite. Alejandro Reyes, Loco Escrito ou encore Vincent Barbone, les artistes suisses seront ainsi à l'honneur de cette 11e édition. Un festival qui, au fil des années, a su renforcer son importance culturelle dans la région. Marc-Olivier Drapel, président du festival Aiglin Musique.
Je pense que c'est important pour la ville, pour la région, et puis c'est important pour les artistes locaux aussi, parce qu'en fin de compte, oui, on va chercher quelques-uns outre-Sarine, mais la plupart, ils viennent du canton de Vaud, du canton du Valais, et la plupart viennent aussi avec leurs amis, hein, ils ont leur fans club, leur suivi, et c'est vrai que je pense qu'il y a réellement un besoin, et puis je pense qu'on doit continuer à promouvoir cette scène helvétique et régionale, et puis moi, j'ai pas envie que le porte-monnaie soit une barrière à ces découvertes.
des propos recueillis par Xavier Borgeot. Parmi les nouveautés de cette année, on peut souligner l'introduction du système cashless qui permet des paiements sécurisés sans monnaie sur tous les stands. La BNS se défend de toute manipulation du cours du franc. Le département américain du Trésor a ajouté la Suisse et l'Irlande à une liste de partenaires commerciaux susceptibles de manipuler leurs devises ou de mettre en place des bannières commerciales non tarifaires. À l'étranger, la Cour d'appel de Tokyo a annulé une amende de 81,48 milliards de francs contre quatre anciens dirigeants de TEPCO, l'opérateur de la centrale nucléaire de Fukushima accidentée en 2011, ont indiqué aujourd'hui des médias locaux. Les quatre hommes avaient été condamnés en 2022 à verser cette somme dans le cadre d'une action judiciaire intentée par des actionnaires à la suite de la catastrophe nucléaire déclenchée par un tsunami en mars 2011. Et enfin, avec un tweet liant Donald Trump au défunt financier accusé d'exploitation sexuelle Jeffrey Epstein, Elon Musk a jeté un pavé dans la mare des soutiens du président américain. L'homme le plus riche du monde, qui a quitté son poste à la Maison-Blanche la semaine dernière, a affirmé hier que Donald Trump figurait dans des dossiers gouvernementaux secrets sur d'anciens associés riches et puissants d'Epstein. L'administration Trump a reconnu qu'elle examinait des dizaines de milliers de documents et vidéos qui, selon le mouvement MAGA qui soutient Donald Trump, permettront de démasquer les personnalités publiques complices des crimes d'Epstein.
L'actu en continu, radiochablais.ca.